ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Jean-François Mignard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes... Vous avez été instituteur et permanent de mouvement d'éducation populaire, puis secrétaire national général de la LDH. Il faudra qu'on précise ces termes. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour venir parler d'un sujet qui m'inquiète, qui je ne sais pas comment nous allons parler, mais c'est-à-dire comment aujourd'hui parler du conflit israélo-palestinien sans s'étriper et quelle est votre légitimité pour venir en parler puisque vous avez des responsabilités au niveau de la LDH?
Alors je viens en parler d'une part parce que j'appartiens à une association, je milite dans une association qui s'appelle donc la Ligue des droits de l'homme, et peut-être que en parler c'est une certaine manière donner des éléments de légitimité. La Ligue des droits de l'homme, c'est 1898, c'est l'affaire Dreyfus. La création de la Ligue des droits de l'homme, et c'est bien déjà un contexte qui est un contexte dans lequel on est dans quelque chose de l'ordre de l'atteinte aux droits et aussi de la question de la discrimination et du racisme, puisque a priori tout le monde sait à peu près que l'affaire Dreyfus, c'est l'affaire d'un capitaine d'artillerie qu'on accuse d'espionnage parce qu'il est juif.
Je vous arrête, cher monsieur, parce qu'en fait, vous m'emmenez dans l'histoire, mais moi, je suis aussi sociologue, mais je suis sociologue exégète.
Oui.
Donc vous êtes sociologue militant, vous venez parler de votre foi, de vos convictions, mais moi, je vais remonter à Abraham, avec Ismaël et Israël, je vais remonter au prophète. Si on remonte dans l'histoire, pourquoi commencer là et pas à la Révolution française qui a fait couper des têtes, d'abord droit humain ou droit de l'homme et de la femme?
Alors, on va le prendre par plusieurs bouts. Pourquoi je parle de l'affaire Dreyfus et pourquoi vous me parlez de légitimité? C'est parce qu'il y a quelques légitimités à parler de cette question-là, d'une part quand elle fonde l'institution dans laquelle ou que des éléments constitutifs de cette question qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui fondent la nature même de l'institution dans laquelle je suis. Autrement dit, je suis une institution depuis 120 ans, on se bat contre tout ce qui est à la fois des formes de racisme, de discrimination, d'essentialisation de l'autre en le réduisant à une identité pour mieux le combattre. Et que c'est ça, entre autres, peut-être qu'on en parlera, qui est en train de se passer aujourd'hui au Moyen-Orient. Et que par ailleurs, c'est une association qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient. Et puis, il y a un petit élément biographique concernant cette question-là. C'est que j'ai des amis des deux côtés et je suis allé en Israël et en Palestine il y a de ça quelques années et j'en suis ressorti extrêmement inquiet et préoccupé. Ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose qui hélas ne m'étonne pas trop. Voilà. Alors est-ce que ça donne de la légitimité? Oui, certainement, je pense, de par l'expérience collective et puis de par l'expérience personnelle. Voilà.
Alors, vous allez parler de la Cour internationale de justice ou alors des procès en cours. Mais moi, je vais vous dire le droit sans la force ou la force sans le droit. Et vous parlez, j'allais dire, un peu comme l'évêque auxiliaire Jean-Pierre Batu, qui était venu ici il y a 15 jours et qui avait dit pour avoir un message de paix, il ne faut pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est le plus fort qui parle et qui a raison?
Alors, précisons, le droit sans la force ou la force sans le droit, ce que nous pensons, nous, et que je partage, c'est que le droit n'est qu'une mise en forme sociale d'un rapport de force. Le droit n'existe pas en tant que tel.
Et il évolue.
Et il évolue. Et effectivement, il évolue. Et ce n'est qu'à un moment donné, un point d'équilibre dans la régulation, entre autres, des rapports de force et des règles qu'on se donne pour arriver à vivre en société. Alors, ça vaut pour tous les aspects du droit, et ça vaut aussi sur les aspects du droit international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est un des problèmes à l'heure actuelle qu'on rencontre avec ce qui se passe en Palestine, c'est que le droit international... Et alors que ce soit les principes de droit, leur application et leur mode de régulation par les tribunaux ne fonctionnent pas. Il s'agit pour nous pas tant de prendre parti. On n'est pas campiste. On a toujours refusé systématiquement de choisir notre camp qui serait le bon vis-à-vis de l'autre qui serait le mauvais. Parce qu'on sait très bien à quoi ça mène, là, pour le coup. C'est la loi de la jungle. Mais force est de constater, dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ça dépasse d'une manière et de façon délibérée, assumée par le gouvernement, pour le coup, qu'on peut identifier, alors, le gouvernement israélien d'un côté, qui s'assoit depuis des années... sur le droit, qui est le droit international, et de notre côté, effectivement, des organisations qui sont des organisations pour lesquelles la question du droit importe relativement peu, puisqu'on est dans la violence revendiquée en tant que telle. Je ne suis pas en train de dire au passage que je renvoie dos à dos chacun des deux protagonistes. Mais on est relativement impuissant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine, parce qu'effectivement, on est devant un drame qui est un drame qui se déroule dans lequel les victimes sont d'une certaine manière aussi les victimes de personnes, de groupes, enfin, je veux dire, ou de représentants d'État. Et là, on s'arriverait à la cour, aux différentes cours auxquelles on peut faire appel, mais sont au milieu effectivement de gens qui s'assoient sur le droit. Et qui ne veulent pas entendre le droit, qui est un droit international, qui jusqu'à présent permettait au moins de réguler le conflit.
Alors, vous avez utilisé plusieurs fois le terme de droit, oui, en tant que juriste, ou alors si on est sociologue, ou si on est simplement observateur, journaliste, je dirais, mais qui sont ces acteurs? Et alors, pourquoi est-ce qu'en France, nous avons vous l'avez dit, pas prendre parti, mais alors, est-ce qu'on se désinforme ou est-ce qu'on s'informe mais auprès de quelle source? Et puis ensuite, est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est pas nous qui vendons des armes, on, c'est qui? Alors, je voudrais dire, si je lis la littérature, il y a le droit à la guerre, je dois me défendre, alors on m'a attaqué, ou en prévention, il y a le droit dans la guerre, avec la légitimité de la riposte.
Oui, bien sûr, équilibré.
Et le droit après la guerre.
Oui.
Mais nous venons d'aborder au moins une dizaine de thèmes.
C'est vrai.
Cher Jean-François, et c'est pour nous difficile de savoir, est-ce qu'on se situe au niveau de la géographie, quel territoire, quelle frontière, puisqu'il y a déjà eu plusieurs discussions pour, je crois qu'il y a même une personnalité française qui a dû démissionner parce qu'elle avait situé trois cartes.
Oui.
En montrant l'évolution. Alors, on va parler de mitage, de colonie, on va parler d'extension d'une terre sainte. Or, moi, je suis sociologue, je n'ai absolument pas à me référer à une quelconque Bible ou bien à la parole du prophète Mahomet par rapport à Jérusalem, parce que là, nous sommes dans le dogme. Et si j'en reviens à David et le conflit contre les Philistins, Goliath, ou bien si j'en revois à Madame Nadine Zimmermann est venue nous parler de ce moment très fort où Judas Maccabée a résisté contre l'occupant grec, mais on va parler aussi alors de l'exode, ou plutôt de la déportation à Babylone, ça sera encore d'autres moments forts, ou de la Shoah.
Et aussitôt, ou de la Nakba.
Ou de la Nakba, merci. Donc, nous sommes déjà, dès qu'on parle de nouveau d'histoire, est-ce qu'il y a une histoire sainte? Je suppose que vous êtes au niveau d'une neutralité, comme moi je suis une neutralité sociologique dans mon travail.
Oui, alors vous évoquez un peu rapidement, ou vous donnez une affirmation d'emblée sur laquelle on pourrait venir, comme vous dites, nous ne vendons pas d'armes, nous vendons des armes, nous sommes un pays qui vendonne des armes. Et nous sommes pris en tant que pays, alors c'est le nous, de quel nous parle-t-on?
La
vacances. Si on parle du nous français, nous sommes vendeurs d'armes.
Oui, mais il faut lire le Monde diplomatique alors. Ou alors je lis le Monde diplomatique ou Valeurs actuelles. Je lis le Canard enchaîné ou bien je lis La Croix ou La Vie.
Lisez un journal d'économie entre guillemets pure hein, et qui juste identifie les flux d'armes qui partent de nos usines d'armement et qui sont vendues aux protagonistes. On est vendeurs d'armes et de ce point de vue-là, c'est pas une accusation comme ça qui serait rédhibitoire, le fait de dire on vend des armes, mais nous sommes nous-mêmes pris dans des enjeux qui sont les enjeux de ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça rend les choses relativement difficiles.
Mais il y a l'Iran, et puis il y a les États-Unis, l'Égypte d'un côté qui n'accepte pas de, entre guillemets, réfugiés, le Liban qui est... Alors, nous sommes là dans la géopolitique, mais vous et moi, nous sommes assis tranquillement au chaud dans studio de Radio Présence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ne rien faire ou bien il ne suffit pas de prier. Je me rappelle certains théologiens de la libération qui disent nous allons prendre les armes contre l'occupant ou pendant la guerre. Témoignage chrétien qui disait on ne peut pas accepter la torture. Tout de suite, nous allons utiliser des mots fleuris comme génocide ou bien crime contre l'humanité. Mais vous voyez, ces mots, vous et moi, nous allons peut-être les utiliser dans un autre sens. Et je vous remercie d'être venu ici pour apporter peut-être, pas un sourire, mais au moins un moment peut-être de paix pour que nous essayions de clarifier tous les deux ces questions compliquées. Ah, peut-être par un moment de silence avant d'écouter Zebda, mais au moins par un moment de dire nous ne pouvons pas connaître tout.
Non, alors, d'autant que, et c'est certainement une des difficultés de la situation, souvent je dis, plus on est loin du conflit israélo-palestinien, pour le dire rapidement comme ça, plus on a des positions tranchées. Je pense que la première des choses pour penser, et pas que penser, pour prendre position et voir comment on peut agir, pour essayer d'aller dans le sens de votre question, c'est déjà de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Nous ne sommes pas des protagonistes directs de ce conflit. Nous ne sommes pas les populations gazaouis qui sont sous les bombes de l'armée israélienne.
Mais nous ne sommes pas les
otages. Nous ne sommes pas les otages. Mais nous avons des amis. Alors là, je vais parler un catholique. Nous sommes des amis. Nous avons plus que des amis. Nous avons des êtres humains, c'est-à-dire qui partagent avec nous ce qu'on appelle la commune humanité. Et ceux qui leur arrivent là-bas, n'est pas autre chose que ça dans ce que ça nous dit. Et de ce point de vue-là, moi, et je pense que l'organisation dans laquelle je suis, ou les gens avec lesquels je me mobilise par exemple, partent d'emblée en se disant les gens qui sont là-bas et ceux qui m'interpellent là-bas, ce n'est pas le fait que d'un côté des juifs soient pris en otage et été assassinés, que d'un autre côté des Palestiniens ou des, alors très compliqué, des Arabes et ou des musulmans sont sous les bombes, sont aussi pris en otage depuis des années, etc.
Ils sont utilisés comme boucliers humains. Alors, vous avez parlé de catholiques, nous parlons dans cette radio. Citer le psaume 84, amour et vérité. Mais ce ne sont que des mots. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix. Une paix sans justice ? Voilà une justice qui impose un ordre qui soit...
Il est à peu près clair qu'il n'y a jamais de paix sans un minimum de justice. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vit aujourd'hui. C'est bien parce qu'il y a une espèce de déni autour de cette question-là qui s'est réalisée depuis ces dernières années. C'est qu'il y avait des situations... Moi, pour y être allé, j'ai pu mesurer le niveau de frustration terrible d'un certain nombre de personnes là-bas au regard des injustices telles qu'ils les vivent ou qu'ils les vivent depuis un certain nombre d'années. Ce qu'on paie aujourd'hui, ce qu'on paie, vous voyez, là aussi, attention, ce qu'ils paient aujourd'hui, nous ne payons pas grand-chose. Et la meilleure position qu'on puisse prendre, c'est de ne pas se laisser prendre à l'identification. Si nous pouvons aider, c'est en gardant la distance par rapport à ce qui se passe et l'empathie vis-à-vis des gens qui sont là-bas.
Nous n'avons pas réglé nos comptes, cher François, parce qu'il y a des mots dont on n'a pas encore entendu parler, génocide, apartheid boycott, mais je crois que nous allons écouter Zebda qui nous parle avec sa poésie et nous allons essayer de prendre une distance par rapport à nos émotions. Et nous demandons à Christophe cette plage musicale.
Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire, pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour oui, la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Jean-François Mignard, vous êtes représentant ici de la Ligue des droits de l'homme et vous nous avez apporté ce poème. Un poème, j'allais dire militant, parce que vous venez parler de votre foi, de vos convictions et de votre combat pour la paix, je crois, puisque vous avez dit « on se bat ». Mais j'allais dire, mais comment vous vous battez? Avec le stylo, les armes de la critique ou la critique des armes? Ça, c'est Karl Marx que vous avez bien connu.
Je l'ai fréquenté épistolairement, littérairement. Voilà, mais on peut y revenir. Vous voulez que je dise un poème, c'est ça?
Ben oui, voilà. En complément de Zebda, parce
bien
que
sûr,
je crois
bien
que...
Bien sûr, alors j'ai choisi, puisque c'était un exercice que vous m'aviez proposé, j'ai choisi un extrait de poème très court d'un grand poète, qui est un poète palestinien qui s'appelle Mahmoud Darwish, hein, et que je vais lire justement, et qui me paraît dire quelque chose de ce qui se passe là-bas. « Vous qui tenez sur les seuils, entrez, et prenez avec nous le café arabe. » Vous pourriez vous sentir des humains comme nous. Vous qui tenez sur les seuils, sortez de nos matins et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains.
Très bien, merci. Oui, je devrais dire, justement, comme tout à l'heure, je citais pour nos auditeurs qui fréquentent d'autres poèmes, ceux de la Bible avec nos amis juifs, que le psaume 84... sans doute, il demande amour et vérité. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Mais on pourrait dire, mais où est Dieu dans tout ça? Et je pourrais dire aussi à nos amis, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient musulmans, si on lit certaines sourates qui ressemblent au psaume 149, nous avons à la fois le remerciement parce que Dieu nous a permis de vaincre nos ennemis, mais nous avons aussi une haine et une parole extrêmement dure contre ses adversaires. Or, on pourrait dire qu'il y a le rabbin Yeshua qui a dit « Aime ton prochain comme toi-même et si on te donne une gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. » Ça veut dire peut-être, comme me disait un des amis rabbins, que tu détournes la tête au lieu de surenchérir. Et là, nous sommes peut-être dans cette première remarque que nous allons échanger, le droit de œil pour œil, dent pour dent, ou de la proportionnalité de la riposte.
Oui. Alors bon, sur ce que vous venez d'évoquer, la manière dont vous pouvez interpeller Dieu, je dois avouer que là-dessus, je n'ai pas grand-chose à en dire. Voilà. Mais ce sont une manière de penser cette question-là sur laquelle moi, je peux pas dire grand-chose. Mais sur la question qui est la question de la surenchère et de il me semble que ce qui est en train de se passer là-bas et change la nature de la situation. Voilà. On assiste. Alors, je vais revenir sur les mots qui ont été évoqués tout à l'heure.
Génocide, boycott, crime de guerre.
Alors, on a au moins
trois thèmes, il nous faut trois heures.
Bien sûr. Alors, je vais au moins les trois termes qui sont crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. Voilà. Et pour ça, il faut s'appuyer un peu sur. Alors, d'une part, je tiens à dire que moi, j'ai trouvé, alors je vais le dire comme ça de façon un peu réactive, qu'au début des événements, on a beaucoup fait de sémantique pour éviter de prendre position et que les journalistes, à cet égard, ont eu des positions, enfin des attitudes qui, moi, m'ont un petit peu interloqué, au point même que j'ai eu quelques conflits avec quelques journalistes dans lesquels on était sommés de prendre position sur une dénomination d'une situation. Vous savez, est-ce que c'est du terrorisme, est-ce que c'est pas du terrorisme, etc., etc.
Légitime et défense, prévention.
La légitime défense, oui. et tout. Et où on était, là aussi, j'ai envie de dire, je vais faire du néologisme, campisé. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont on pensait et dénominait la situation, on était censé être catalogué dans un camp. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La pire des situations et la pire des choses qui peuvent nous arriver, c'est de choisir un camp. Qui est un camp définitif.
Et voilà. D'importer un
conflit. Et ce faisant, se faire soi-même manipuler par ce qui est en train de se passer là-bas.
C'est l'identité meurtrière.
Voilà, alors ça renvoie.
On assigne quelqu'un à une identité supposée.
Alors, non seulement. Alors, ce qu'il y a de très dangereux dans la situation, c'est qu'on l'assigne et qu'on s'assigne. C'est un double mouvement, c'est-à-dire que en même temps que on s'assigne individuellement, ça c'est la dimension de l'identité individuelle, et même dans le registre de la communauté pour le coup, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne plus que comme effectivement un membre d'une communauté qui par définition est différent
de l'autre. Se cherche lui-même d'ailleurs.
Oui, alors voilà.
La constitution en Israël. Il nous reste deux minutes, pas de boycott ou un boycott par rapport à Carrefour et puis d'autres positions.
Voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, ne peut renvoyer qu'à la question du droit et au droit international. Il y a des procédures qui sont engagées, notamment par l'Afrique du Sud, mais pas que, dans lesquelles il y a une nomenclature qui permet de dire ça, c'est plutôt du génocide.
Il faut s'informer. Et on devrait signaler ici le bon livre de Shlomo Sand, qui est un historien, qui est engagé au niveau d'Israël. Et on pourrait dire aussi qu'il y a une diversité peut-être de littérature dont il faut prendre le courage de les lire.
Oui, parce qu'effectivement, la situation est de ce point de vue-là particulièrement complexe et brouillée par ce niveau qui est ce niveau-là d'assignation en permanence.
Et ne pas confondre.
À choisir son camp.
Ne pas confondre anti-judaïsme, anti-sionisme.
Bien sûr.
Et
antisémitisme.
Le droit à l'existence du peuple d'Israël et des peuples palestiniens. Le droit aussi à assumer une terre et une patrie.
Bien sûr. Et le droit qu'on peut avoir à avoir une critique politique de décisions qui sont prises par un État sans renvoyer ça à quelque chose de l'ordre du racisme. Je veux dire, on peut très bien, et moi je fais partie des gens qui sont extrêmement critiques par rapport aux décisions prises par le gouvernement israélien aujourd'hui, que je pense être inscrit dans une dérive qui les amène à avoir des crimes de guerre, sans sans réduire cette opposition-là, un choix qui serait un choix renvoyé à une identité de type religieuse ou communautaire. Voilà.
Et la laïcité, c'est de dire qu'il n'y a pas de blasphème en France. On peut critiquer des idées, on peut critiquer la conception que se font les uns et les autres du grand Jérusalem ou de la grande terre qui va du fleuve à la mer. Et peut-être, avant de vous laisser le mot de la fin, je voudrais signaler qu'ici à Radio Présence, nous avons une émission extrêmement intéressante à 17h15 tous les lundis des prix Nobel de la paix et de ceux qui sont pour apporter un éclairage pacifié, non pas irénique ou naïf, mais de tous ces grands hommes comme Gandhi, Martin Luther King, etc. Et donc, je crois que nous allons vous laisser, Jean-François, lire le poème qui sera un signe de fraternité pour les êtres humains et pour nos frères, qu'ils soient descendants d'Abraham par Ismaël ou Israël, ou qu'ils soient simplement vivants aujourd'hui.
Alors, je vais reprendre des bouts de poèmes de Mahmoud Darwish, puisque j'avais commencé par ça.
Pense aux autres quand tu fais la guerre. Pense aux autres.
Voilà. Alors, à un tueur, si tu avais regardé le visage de ta victime et réfléchi attentivement, tu te serais peut-être souvenu de ta mère dans la chambre à gaz, et tu te serais libéré des préjugés du fusil et tu aurais changé d'avis. Allons, ce n'est pas une façon de restaurer une identité. Et ensuite, le dernier bout de poème qui, je pense, pose un peu un point final, c'est « Salut notre maison pour nous, l'étranger, les tasses de notre café sont encore à l'état, y sens-tu l'odeur de nos doigts ?»
Merci Jean-François, et nous souhaitons en ce début d'année une paix pour le monde, et je voudrais dire que cette émission est enregistrée aujourd'hui dans une semaine de janvier. Nous espérons qu'en février, lorsque cette émission sera diffusée, il y aura un peu d'apaisement
je
dans les
également.
Cœurs et dans les idées. Merci Christophe pour l'enregistrement.